cette semaine, dans ses conversations avec le géopolitologue Daniel Habert, on discute du rôle des pays tiers dans la confrontation entre la Chine et les États-Unis. On l'écoute au micro d'Asley Santoro.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver Daniel dans le cadre de nos conversations. On a beaucoup parlé avec vous Daniel la semaine dernière de la prochaine visite de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien en Chine, et ça nous pose finalement la question de savoir que fait la plupart des pays du monde avec les deux grands, à savoir la Chine et les États-Unis. Alors est-ce que ce n'est pas le moment Daniel de parler de tous ces pays qui au fond subissent les conséquences de la confrontation Chine-États-Unis et de nous demander par conséquent quels sont ces pays et quelle est leur situation?
Ben d'abord, ils sont là, l'immense majorité des pays du monde. Vous savez qu'il y a 193 pays qui sont membres de l'ONU. Il y a deux grands qui se confrontent et tous les autres, les 191 qui restent, d'abord n'ont pas pris part à cette décision de confrontation. Ils la trouvent d'ailleurs peut-être inutile et en tout cas elle cause des dégâts sur leur propre économie en particulier, qui fait que ils se posent des questions. Il faut bien voir qu'ils subissent la crise économique. D'abord, parce qu'une partie de la crise économique que nous vivons vient de la confrontation, elle vient du Covid, elle vient de la guerre en Ukraine, mais elle vient de cette confrontation. Et si cette confrontation dure, et elle dure, elle va aggraver cette crise. Et deuxièmement, elle suscite des craintes, des peurs dans les populations, craintes de la guerre. Alors, quels sont ces quatre grands groupes qu'on appelle les pays tiers, hein, ceux qui ne sont ni des États-Unis ni la Chine? Ben, le premier, c'est les pays qui sont en fait des alliés des États-Unis, des pays proches des États-Unis. Ils ne sont pas alliés au sens d'alliance. Il y a l'Union européenne, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a aussi le Japon et la Corée, qui étant des pays, bien qu'ils soient des pays asiatiques, font partie au fond de l'Occident entre guillemets. Puis bien sûr, il y a Israël. Qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces pays? Ben à chaque fois qu'ils se rencontrent, ils disent nous partageons les mêmes valeurs, c'est-à-dire les valeurs démocratiques. Mais à part ça, et c'est ça tout le problème, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes intérêts. Le deuxième groupe de pays sont les pays qui au contraire sont proches de la Chine, qui ont décidé de suivre la Chine. C'est les pays qui sont essentiellement en Asie, proche de la Chine, les pays d'Asie centrale, qui font partie de l'organisation de la coopération de Shanghai, Kazakhstan, Turquie, tous ces pays en stand, qui sont entre la Russie et la Chine, l'Iran, qui devient un ami à la fois de la Russie et de la Chine. Vous avez le Laos, le Cambodge, la Birmanie qui sont dans l'orbite chinoise. Vous avez le Pakistan, qui est un pays très proche des Chinois. Donc tout ça forme un clan chinois. Et puis en Afrique et en Amérique latine, un certain nombre de pays qui ne sont pas alignés, mais qui sont des pays qui, au fond, profitent des largesses financière de la Chine, l'Algérie par exemple, qui pratiquement a confié toute la construction de ses infrastructures, de ses bâtiments à la Chine. Vous avez aussi des pays comme le Brésil et le Venezuela qui se rapprochent, on l'a vu avec la visite de Lula en Chine, qui se rapprochent de la Chine. Ça, c'est le deuxième groupe proche de la Chine. Le troisième groupe sont des pays qui, alors c'est des pays très intéressants, sont aussi beaucoup en Asie ou ailleurs, qui sont des pays qui sont à la fois dans l'orbite économique chinoise, ils ont besoin de la Chine pour travailler, mais ils sont en même temps proche de l'Occident et surtout des Américains à qui ils ont concédé souvent des bases militaires. C'est le Vietnam, c'est l'Indonésie, 270 millions d'habitants, c'est pas rien. Les Philippines, plus de 100 millions d'habitants, la Malaisie, la Thaïlande, un pays de 60 millions d'habitants. Donc tous ces grands pays d'Asie qui en plus ont sur leur sol des Chinois d'outre-mer, des Chinois de la diaspora qui ont des liens très étroits avec la Chine, travaillent avec la Chine tous les jours, ont besoin de la Chine pour se développer, mais ont chez eux des bases militaires américaines et les Chinois les considèrent un peu comme des adversaires en même temps que des partenaires économiques. Vous voyez, c'est un groupe important et très complexe. Et puis le dernier groupe de pays sont des pays qui essayent d'avoir une certaine forme de neutralité. Alors évidemment, le leader de ces pays, c'est l'Inde. Et on voit dans ce groupe de multi-alignés apparaître un certain nombre de pays, on va le revoir, comme l'Arabie Saoudite. On a vu qu'elle jouait un petit peu le jeu entre les deux. Vous voyez, voilà la grande typologie en quatre catégories de ces pays tiers qui sont impactés par la confrontation.
Mais alors, Daniel, comment chaque groupe de ces pays tiers gère leurs relations avec les États-Unis et la Chine?
Mais tous ont en commun l'idée que bon, cette confrontation, c'est bien gentil, mais eux, chacun de ces pays a ses propres intérêts, ses intérêts nationaux, ses intérêts vitaux à défendre. Donc, ils ont besoin d'avoir une autonomie stratégique, d'où l'expression allié mais pas aligné, par exemple, qu'on entend en Europe ou pour Israël, parce qu'Israël a ses propres besoins de sécurité et économique. Et donc, au fond, tous ces pays-là que je viens de décrire, ils auraient préféré qu'il n'y ait pas de confrontation. Et ils ont hâte que cette confrontation prenne fin. En attendant, qu'est-ce qu'ils font? Ils naviguent. Ils naviguent, ils essayent de pas se faire prendre, etc. Mais c'est de moins en moins possible de naviguer. Ça a été d'ailleurs la stratégie d'Israël pendant de nombreuses années, de naviguer entre la Chine et les États-Unis. Mais la pression américaine sur Israël et la pression américaine sur ses alliés occidentaux augmentent avec le temps. Et donc, ils peuvent de moins en moins naviguer. Donc, il faut trouver des solutions de négociation. Et on voit bien, par exemple, qu'Israël négocie avec les États-Unis la façon dont elle peut garder des liens avec la Chine. Il y a ces fameuses lignes rouges où Israël s'est engagé, par exemple, à ne jamais vendre à la Chine des technologies qui pourraient aider la Chine à renforcer son potentiel militaire. Alors bon, la ligne rouge peut être plus ou moins épaisse, il y a des discussions, vous voyez, un petit peu fines, mais dans l'ensemble, Israël respecte ces lignes rouges. Les Européens, on voit bien, ils ont envie de continuer à travailler avec la Chine, ils négocient des accords sur les investissements réciproques, ils essayent d'envoyer comme message à la Chine, ne soyez pas dans la guerre en Ukraine des co-belligérants. Ce qui est le cas, hein. Pour l'instant, personne n'est un co-belligérant dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, le message qui est envoyé à la Chine, c'est ne soyez pas co-belligérants. À ce moment-là, on va pouvoir travailler avec vous. Et puis, certains pays, par exemple, comme la Grande-Bretagne, eux, ils jouent à fond la carte américaine. Ils ont éliminé la France d'un grand projet de sous-marin, de vente de sous-marins à l'Australie, et ils les ont remplacés, et ils ont formé avec les États-Unis et l'Australie une espèce de petit bloc de pays qui parlent anglais, anglo-saxons, qui se présentent comme un peu anti-chinois. Donc, vous voyez, c'est un bloc un petit peu séparé. Et puis tous les autres pays d'Amérique latine, pays d'Asie, finalement, ce qu'ils ont en commun, et ça, il faut jamais l'oublier, c'est un profond ressenti anti-occidental qui vient de l'histoire, c'est la colonisation, c'est ce qu'ils appellent l'impérialisme ou le néocolonialisme, et tout ça ils l'ont dans la tête et ils ont comme idée que la Chine n'a pas été mêlée à cet effort colonial, n'est pas un pays impérialiste et donc ça donne un petit peu une chance à la Chine de faire avancer son discours. On l'a bien vu avec l'Arabie Saoudite par exemple qui joue ce jeu-là comme la Turquie ou comme le Brésil ou le Venezuela qui sont des pays non alignés, mais qui comprennent un peu la Chine et la Chine les comprend bien. Donc voilà un petit peu comment chacun gère tout ça. Ça donne un paysage justement si compliqué qu'on analyse dans nos conversations, un paysage extrêmement divers où la confrontation est gérée par tous ces pays-là de façon différente.
Est-ce qu'on peut imaginer un rôle de ces pays tiers dans la fin de cette confrontation qui, d'une part, coûte cher au monde et, d'autre part, conduirait éventuellement à l'établissement d'un nouvel ordre mondial?
Ça serait l'idéal et ça peut servir de conclusion. Oui, on peut imaginer que s'ils s'unissaient, s'ils avaient au fond un lieu où ils pourraient mettre en commun leur stratégie et s'adresser soit à la Chine, soit aux États-Unis, soit aux deux en disant arrêtez cette confrontation qui nous pénalise tous, ce serait bien. Mais au fond, on voit bien que ces quatre groupes sont extrêmement différents, sont en rivalité. Ont des contentieux entre eux déjà. Donc l'unité, elle n'est pas pour demain. Même à l'intérieur du camp occidental, on voit mal, par exemple, l'Europe et Israël parler ensemble aux États-Unis. Comment peut-on vous aider à mettre fin à votre confrontation avec la Chine? C'est pas encore mûr, disons. Et donc il va se passer beaucoup de temps avant que ça arrive. Mais il est certain que un jour ou l'autre, le coût économique et le coût des peurs militaires, donc la nécessité de se réarmer, écoute, des fortunes en ce moment à tous les pays, va être excessif, et donc il y aura un besoin de se réunir, d'avoir cette grande réunion concertation pour un nouvel ordre mondial, et on va s'apercevoir que les groupes que j'ai décrits ont des grandes différences culturelles, et que à ce moment-là, la grande négociation, ça sera une négociation entre civils. Civilisation, chacun ayant sa vision du monde, et il faudra bien accorder les différentes visions du monde. Vous voyez que c'est un projet gigantesque, et enfin les temps ne sont pas mûrs, mais il faut commencer à en parler parce que c'est comme ça que évidemment ça finira.
On aura bien évidemment, Daniel, l'occasion d'en reparler avec vous dans nos conversations. Merci beaucoup pour vos éclairages. Très bonne semaine et à la semaine prochaine, Daniel.
Au revoir.